Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers amis, chers auditeurs et auditrices, surtout auditrices cette fois-ci, aujourd'hui spécialement, nous honorons les femmes encore une fois, et c'est quelquefois pas assez souvent à notre gré, n'est-ce pas Jacqueline Dom que je reçois aujourd'hui ?
Faut pas en rajouter.
Pas en rajouter non plus.
Non, non.
Non. Jacqueline, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec moi pour cette émission, pour l'émission Dans nos communautés, et où aujourd'hui nous parlons donc des femmes, femmes d'espérance, femmes d'exception, à l'occasion de l'exposition qui a lieu à la Maison du protestantisme, à partir, donc ça a commencé le 4 mars et c'est jusqu'au 17 mars. Voilà, donc il a été impulsé, cette exposition a été impulsée par le mouvement du groupe Orsay, qui est un collectif dont Jacqueline Dom, vous êtes la trésorière, et qui existe depuis déjà longtemps, depuis 1981, il me semble. Donc je vais vous tendre la perche pour nous parler de ce groupe Orsay, tout d'abord, parce que c'est un peu intriguant, ce nom oui, aussi.
Tout à fait. Alors j'aime quand même dire, pour les auditrices un peu anciennes, que dès après la guerre, il est né le mouvement Jeunes Femmes, un mouvement très très connu, avec de nombreux engagés, et qui faisait beaucoup d'activités pour aider les femmes dans toutes les questions sociales, maritales, vraiment un travail social remarquable. Or, ce mouvement Jeunes Femmes, après 60, ils avaient une référence protestante. C'était toutes des copines protestantes. Après 68, les années changeant, ils ont décidé de enlever de leur statut la référence à l'Évangile. Nous étions plusieurs, dont certaines plus âgées que moi, qui étions déçues. Donc on s'est dit, c'est dommage, pourquoi les protestants n'ont pas un groupe de femmes protestantes ? Donc c'est un peu la naissance de ce groupe, non pas 81 mais 84. Sous les auspices, vous avez peut-être entendu parler d'une femme extraordinaire, Madeleine Barrault. Madeleine Barrault est une célèbre personne qui a travaillé au Conseil œcuménique, qui a travaillé un peu partout dans le monde, et dont j'ai eu la chance d'être la secrétaire pendant à peu près 8 ans. Et cette femme m'a dit, écoutez, à la Fédération protestante, vous avez des mouvements de toutes sortes, qu'ils soient le mouvement rural, le mouvement social, etc. Mais il n'y a rien pour les femmes. Donc, femmes protestantes, nous, on aimait mieux dire féministes protestantes, mais à l'époque, on était prudentes. On disait femmes protestantes. Pourquoi le nom d'Orsay ? Tout le monde nous dit, c'est ridicule. C'est une gare, Orsay, c'est pas un mouvement. Bon, je résume, nous avions tous les deux ans des grands colloques qui regroupaient jusqu'à 200 personnes et on avait trouvé qu'un centre à Orsay, en Essonne, chez des franciscains, des charmants franciscains, il y avait 10 moines qui nous prêtaient un immense centre où on pouvait loger et travailler pendant 2 jours, samedi matin, dimanche soir, au centre des franciscains à Orsay. Donc un peu en souvenir et par respect pour ces frères qui nous accueillaient, on a dit on sera le groupe d'Orsay, voilà, à cause de cette ville en banlieue de Paris. Voilà, première explication. Et alors, nous avons eu des années célèbres avec, comme je vous dis, des colloques, des conférences, un groupe avec des femmes musulmanes où on parlait de la liberté dans le Coran et dans la Bible. On a eu des moments extraordinaires. Les années ont passé, j'allais dire, les adhérents, les membres ont vieilli, dont moi la première. Beaucoup, hélas, sont décédés. Et notre mouvement s'est un tout petit peu effiloché. Nous existons encore avec des nouvelles. Nous sommes toujours 8 ou 10 responsables collectifs, sans aucune présidence. Et là, tous les mois, une fois par mois le lundi, nous avons ce qu'on appelle femmes et lectures partagées. Une fois par mois, de 18 à 19h30, nous animons la présentation d'un livre. Le livre doit être écrit par une femme, présenté par une femme, mais de n'importe quelle obédience que ce soit. Nous avons, grâce à une visioconférence, un pasteur d'Afrique, une autre du Canada, nous avons des personnes qui nous écoutent, entre 5 au pire et 20 au mieux, qui écoutent pendant 1h30 la présentation d'un livre écrit par une femme. Ça, c'est notre dernière activité restante. Et en ce moment, nous travaillons sur France Quéré, autre femme très connue, théologienne, décédée aujourd'hui, parce qu'une revue protestante Foi et Vie veut faire un gros dossier France Quéré. Donc nous faisons tous les lundis une petite séance pour essayer de travailler la théologie et le féminisme de France Quéré pour pouvoir faire un article. Voilà ce que c'est le groupe Orsay.
Voilà, donc merci beaucoup de l'avoir rappelé parce qu'il est à l'initiative aussi de beaucoup de choses. Et puis c'est bien qu'il ait duré dans le temps. Alors, je crois que c'est sur Internet hein, que j'avais vu que c'était 1981 et pas 1984. Donc, quelque part, il y a eu un petit souci. Mais peut-être que c'est le groupe des jeunes femmes. peut-être.
Oui, je pense que 81, c'est un colloque, vous avez raison, un grand colloque. Et 84, c'est la préfecture. C'est moi qui ai déclaré en préfecture. Moi, j'ai mon papier de la préfecture, vous avez raison.
Oui, 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 d'accord. Préfecture. Très bien, c'était juste pour que nous soyons bien tous d'accord avec les dates. Mais peu importe, cela fait déjà donc longtemps que vous existez et que vous faites beaucoup de choses donc pour les femmes, par les femmes, avec les femmes. Et cette fois-ci, donc, Jacqueline Dhomme, vous avez mis en place, je ne sais pas si toute seule ou avec d'autres femmes d'ici, de Nîmes, vous avez mis en place l'exposition « Femmes d'espérance, femmes d'exception », qui est une exposition, je crois, qui a déjà été faite ou en tout cas proposée dans d'autres endroits,
voilà,
parce qu'il me semble que j'ai déjà entendu en tout cas ce titre.
Oui,
très beau titre,
justement, d'ailleurs. Alors, si vous voulez, notre groupe Orsay avait, comme tous les groupes, une revue. Et cette revue s'appelait Les Échos du groupe Orsay. Et au début mensuel, puis trimestriel, bref, et aujourd'hui une ou deux fois par an. Et dans cette revue, une très gentille théologienne alsacienne, Marjolaine Chevalier, qui a enseigné la théologie, qui a maintenant bien plus de 90 ans, avait décidé de faire chaque mois un texte qui s'appelait « Femmes remarquables ». Elle écrivait dans notre revue, elle cherchait dans l'histoire ailleurs une femme qui avait existé, et elle écrivait toute son histoire. Et au bout des années, je crois 6-7 ans après, on s'est dit « c'est quand même dommage, on classe nos revues dans un classeur, c'est dans la cave, et qu'est-ce qu'on va faire de ces femmes ?» Donc quelqu'un dit « exposition ». Nous étions donc en 2012. On a dit exposition, oui, mais pourquoi, comment? On a dû donc prendre des historiennes, prendre des graphistes, faire appel à un professionnel, qu'est-ce qu'on va y mettre, sous quelle forme, etc. Et on nous a dit, mais regardez, en septembre 2013, vous avez un immense rassemblement à Paris, protestant en fait, qui a eu lieu à Bercy, où il y avait de nombreuses personnes, il y a eu beaucoup de stands, toutes les institutions, CIMAD, des femmes, tout le monde était représenté. Et on nous a dit, c'est l'occasion pour vous, non seulement de parler de votre groupe, mais de présenter quelque chose. Donc on a travaillé d'arrache-pied à faire tout l'historique de ces femmes, exposition donc. Donc de femmes remarquables, l'article, c'est devenu femmes d'espérance, femmes d'exception, ces protestantes qui ont osé. Donc, vraiment, des historiens ont été cherchés jusqu'en 1400, enfin du 16e au 20e. On a sorti des femmes, des fois pas du tout connues, pour les présenter. Alors, il y a l'exposition à 32 panneaux, un panneau d'introduction, un panneau de conclusion, et ensuite 15 portraits. Et à côté du portrait de la femme qui est bien écrit, il y a l'environnement de l'époque où elle était, ce qui se passait, les autres femmes, etc. Donc, si vous vous arrêtez, on ne peut pas tout lire en une fois. Alors, on me reproche qu'il y a trop d'écrits. Alors, moi, je vous dis, en 2013, cette exposition a été très, très bien reçue. Nous sommes en 2025. Aujourd'hui, tout est moderne. On ne veut pas de texte, etc. Certainement qu'aujourd'hui, on ne ferait plus comme ça. Nous l'avons proposé ici en 2016 avec le pasteur Jean-Christophe Muller. Et par contre, nous en avons fait 150 exemplaires qui ont été vendus et qui sont partis de partout de la France. Je crois qu'il nous en reste 3. Alors, on les loue, entre guillemets, où on les vend. Et il y a des paroisses du Nord ou d'ailleurs qui en ont acheté. Et alors, moi, mon idée, c'était que tous les 3 ans, autour du 8 mars, c'est pour ça que j'ai choisi du 3 au 17, autour du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, on met une exposition qui nous rappelle un peu qu'il y avait des femmes autrefois qui faisaient des choses extraordinaires.
Oui, c'est une très bonne initiative et tout à fait au bon moment, puisque c'était le 8 mars, il y a 2 jours. Et donc, bien sûr, le mois de mars est un peu consacré aussi à beaucoup de choses autour des femmes. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative. Et il y a un contenu vraiment très riche. C'est vrai qu'il faut prendre le temps, je pense, de bien regarder l'exposition, de bien la lire. Et si on ne vient pas qu'une fois, ben on peut revenir 2 fois. C'est gratuit, n'est-ce pas?
Oui.
Donc, voilà l'intérêt quand même. Donc, il y a 15 portraits. Alors, on ne pourra pas parler de toutes ces femmes. D'ailleurs, l'intérêt, c'est que vous, auditeurs et auditrices, vous y alliez et que vous soyez là, notamment déjà mercredi prochain, si vous voulez bien venir pour le petit verre de l'amitié. Je crois que c'est mercredi prochain, 12 mars.
Oui,
c'est bien ça, Jacqueline?
Voilà. À 18h, nous faisons une toute petite présentation de l'exposition avant 19h, où nous continuons les cours de Elisabeth Romer dans le cadre de l'Université populaire des religions.
Céline Romer.
On s'est dit, puisque de toute façon elle sera là, puisqu'elle n'est pas là, hop, profitons. Donc de 18 à 19, vous aurez un petit temps pour présenter l'exposition.
Voilà. Donc, pour ceux qui n'auraient pas entendu, voilà, vous, pour mon émission, vous allez l'entendre un peu après, mais puisque mon émission est diffusée le vendredi, mais vous aurez déjà été, j'espère, en contact avec Jacqueline Dhomme ou Céline Romer pour écouter l'Université populaire des religions. Alors, puisque nous parlons des femmes, eh bien, nous allons entendre une chanson au sujet des femmes, hein, puisque nous les aimons, nous, mais beaucoup d'autres les aiment, notamment Julien Clerc. Alors nous allons écouter « Femme, je vous aime ».
Regard qui fronde, quelquefois si seul, parfois elle veut, oui, mais si seul. Si seul, femme, je vous aime, femme, je vous aime, vous êtes ma mère, je vous ressemble, et tout ensemble.
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus 103.2. Vous pouvez nous écouter en DAB+, ou bien écouter nos podcasts nombreux et variés sur radioallianceplus.fr. Alors nous sommes avec Jacqueline Dhomme aujourd'hui, qui est venue nous parler du groupe Orsay, dont elle fait partie depuis 1984, et qui a mis en place donc cette exposition « Femmes d'espérance, femmes d'exception », pardon, qui se trouve à la Maison du protestantisme jusqu'au 17 mars. Alors Jacqueline Dhomme, il y a beaucoup, beaucoup de femmes. On peut peut-être en nommer quelques-unes et puis on en a pioché deux parce que il fallait bien sélectionner, on ne pouvait pas parler de toutes.
Oui, alors il y a certaines, c'est très touchant, on les connaît par leur mari, on dit « tiens ». On connaît par exemple Coyard, Christiana Coyard, moi je connais un missionnaire Coyard, Albrecht, etc. Antoinette Butte, diaconesse de Reuilly, etc. Donc il y a des femmes dont on connaît le nom, d'autres pas du tout. Il y a même la femme de Luther, je ne sais pas si vous savez, Luther a épousé une ancienne nonne, etc. Caroline Malvesan, Bertie Albrecht. Enfin voilà, donc il y en a beaucoup, mais moi j'en ai choisi deux parce que je n'ai pas le temps, et puis deux qui me touchaient beaucoup. Alors j'ai pris Marie Dantière. Ça s'écrit Dantière, parce qu'elle a beaucoup à faire avec la Suisse. Peut-être que vous avez remarqué ou pas que je suis de Suisse. Certains me disent que j'ai un accent, d'autres pas. Voilà, Marie Dantière, qui est une femme extraordinaire, qui a même tenu un peu tête à Calvin, nous a-t-on dit. Voilà. Donc, si vous voulez, elle est née en 1495, ça fait longtemps. Elle est née en Belgique, à Tournai. C'était une jeune femme de bonne famille qui, dès l'âge de 18 ans, entre au couvent. Elles étaient très formées, elle fait des études et tout ça. Elle devient prieure du couvent des Augustines. Donc, c'était une personne qui avait beaucoup de savoir et très intelligente. Nous sommes en 95, en 24, donc elle doit avoir 25 ans. En 1524, elle est dans un couvent, elle découvre la réforme. Elle entend parler de tout ça, elle trouve ça extraordinaire, elle sort du couvent et elle va partir. D'abord à Strasbourg, elle rencontre des amis, puis sur Genève, elle va se marier avec un pasteur et elle est femme de pasteur dans des petites paroisses aux alentours de Genève, etc. Et c'est une femme qui est très, déjà très sûre d'elle. Au couvent, bon, elle était prieure, donc elle savait bien parler, elle savait bien diriger. Donc très vite, elle écrit des textes. Par exemple, elle écrivait une sorte de chronique sur toute l'histoire de la Réforme. Qu'est-ce qui se passait? Elle écrivait au fur et à mesure comme une chronique sur l'histoire de la Réforme. Elle a même écrit une lettre célèbre à Marguerite de Navarre en disant « mais c'est pas possible, il faut faire autrement ». Bref, elle faisait déjà des actes qui étaient terriblement avancés pour une femme. Bon, elle devient veuve et elle épouse de nouveau en seconde noce un autre pasteur. Et elle va donc vivre quasiment toute sa vie à Genève. De temps en temps, on a dit dans les écrits, un tout petit peu en tension avec, il y a deux grands réformateurs, Guillaume Farel et Jean Calvin, qui menaient tout ça à Genève et qui ont instauré l'Église. Donc moi, je connais par cœur le 1536, c'est la création de l'Église protestante à Genève. Nous, on ne dit pas réformée, on dit protestante. Donc 1536, c'est une grande date où vraiment Calvin décline les actes, comment ça fonctionnera avec les pasteurs et tout. Et pour ceux qui connaissent Genève, au centre de Genève, dans la vieille ville, il y a une magnifique vieille cathédrale gothique qui, à cette époque, devient protestante. Que vous le croyez ou non, la cathédrale Saint-Pierre de Genève est depuis protestante. Donc c'est très très rare les touristes qui viennent, qui veulent aller faire le signe de croix. Non, c'est une catholique, une cathédrale protestante. C'est assez impressionnant. Donc depuis Calvin, elle est toujours restée protestante, bien qu'en Suisse maintenant, je dirais que le protestantisme est moins important. On peut dire presque moitié-moitié avec le catholicisme, un peu moins peut-être. Bref, donc elle est à Genève et elle critique un peu des fois Calvin en disant que ses façons d'organiser sont quand même un peu trop mettre les femmes à l'extérieur. Elle dit, tout le monde sait ce que c'est le sacerdoce universel. Ça veut dire qu'un protestant, il peut prêcher, qu'on soit femme ou homme, qu'on soit riche ou pauvre, j'allais dire qu'on soit noir ou blanc, on peut prêcher, on peut annoncer la parole, on peut même diriger un conseil d'église. Donc elle dit à Calvin, il faudrait que votre église implique plus les femmes au sein d'eux. Bon, je ne pense pas qu'il l'a beaucoup écouté parce que autrefois, quand j'étais jeune, il y a beaucoup de conseils presbytéraux, de conseils nationaux d'église, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Mais à l'époque déjà, vous vous rendez compte, en 1536-38, elle dit à Calvin, non, il faut que vous pensiez à inclure les femmes dans non seulement l'annonce de la parole, mais aussi la direction des églises. Je trouve ça très, très gonflé, très bien.
Bon, oui, bref. C'était assez novateur certainement pour l'époque et pas forcément bien pris par tout le monde.
Non. Mais alors, bon. Figurez-vous, j'apprends que le premier homme qu'elle épouse à Strasbourg, puis ils vont ensemble en Suisse comme pasteur. Le second, c'est un ancien prêtre. Du reste, si vous étudiez cette histoire, souvent, ces femmes extraordinaires étaient pour beaucoup dans des couvents, donc cultivées. Ce n'étaient pas des femmes qui ne savaient rien, c'est des femmes dans les cultes. Et beaucoup de réformateurs et de pasteurs étaient des anciens prêtres ou des Luther, etc. Donc, c'est pour dire, était dans un. Donc, c'est pour dire que. Cette femme a été assez avant-gardiste, je dirais. Et alors, un petit détail. À Genève, pour ceux qui ont été, mais ceux qui n'ont pas été, allez-y, il y a au sein d'un grand parc au centre-ville le mur des réformateurs. C'est un monument magnifique. Les statues ont 5 mètres de haut. Je ne sais pas si vous le regardez sur Internet, vous voyez tout de suite le mur des réformateurs où il y a 4 magnifiques statues. Et en Suisse, tous les dimanche de la Réformation en octobre. Nous allons après le culte, tous devant ce mur, et nous chantons « C'est un rempart que notre Dieu sait ». C'est célèbre, moi j'y étais pendant 20 ans, on va après le culte devant ce mur et on rend hommage à nos réformateurs. Naturellement, si vous regardez, il y a d'autres bas-reliefs, des hommes, etc. Il n'y a quasiment aucune femme. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont dit que c'est quand même pas possible. Quand vous prenez toutes les femmes qui ont aidé à la réforme, il faut. Et Marie d'Antière, elle y est. Donc, j'ai vu l'autre jour, ils ont rajouté une magnifique pierre carrée au pied du mur, mais dans un beau. Et on a gravé Marie d'Antière avec ses années. Donc, on peut dire maintenant que le mur des réformateurs, magnifique mais très masculin, a dorénavant une petite notion de Marie d'Antière. Elle est en tant que réformatrice à Genève. C'est touchant, je trouve.
Merci beaucoup Jacqueline, c'est vrai qu'elle est particulière cette femme et elle vaut le coup d'en savoir encore plus. Oui. Merci pour cette impulsion de nous la faire connaître maintenant. Et puis je crois que vous avez aussi une autre personne dont vous voudriez parler qui vous tient à cœur, que vous avez même, je crois, rencontrée.
Ah oui, plusieurs fois. Non, mais il se trouve que Suzanne de Dietrich, qui est aussi dans les femmes formidables, c'est une de Dietrich, pour ceux qui savaient, c'est un grand... en Alsace, un grand homme d'affaires. Donc elle est dans une famille, la maman est baronne, etc., une famille chic, protestante, riche d'Alsace. Et cette Suzanne de Dietrich a une légère infirmité. Donc moi, je l'ai souvent vue, elle marchait difficilement. Je ne saurais pas dire de quoi elle souffrait, mais congénitalement, elle est née, elle avait une infirmité. Donc elle n'a jamais été à l'école, mais elle a toujours eu des préceptrices qui l'ont enseignée et elle est très, très brillante. Et ses parents disent, tu dois faire des études d'ingénieur, tu reprendras la boîte. Tout ça, elle fait des études d'ingénieur, donc c'est une femme très très brillante, mais faisant de la peine à ses parents, elle dit non, c'est pas ça qui me nourrit, moi je veux annoncer la parole. Et elle a fait la théologie sur le tas, on peut dire. Elle était bibliste, elle étudiait la Bible, elle faisait des réunions autour de la Bible. C'était une femme célibataire, donc légèrement handicapée, qui toute sa vie a passé à annoncer la Bible. Elle était très œcuménique, disant qu'après tout, catholique, protestant, c'est le même Dieu. Il faut parler ensemble, il faut travailler ensemble. Donc elle est très, très œcuménique. Et elle a fini sa vie à Paris. Elle était dans un tout petit appartement en dessus du siège du journal Réforme. Je connaissais très bien le siège là. Et en dessus, il y avait Madame Suzanne de Dietrich qui habitait. Et la coutume était qu'on y allait à 2 ou 3 ou 10, pas plus, dans son appartement. Elle nous installait autour de la table et elle commençait à parler. D'abord, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? Comment? Et tout à coup, cette chambre, je trouvais, devenait extraordinaire. Elle vous parlait de la Bible, mais comme si la Bible, c'était un second elle-même. Enfin, je trouvais assez extraordinaire. Donc, j'ai rencontré, d'autant qu'elle était l'amie, alors de la personne qui m'a le plus marquée dans ma vie, c'est Madeleine Barrault, comme je vous ai dit tout à l'heure. Elle se connaissait très bien. Et ces deux dames en 39, vous vous rendiez compte, même l'une à Nîmes, je crois, avec le pasteur Marc Bugner, qui était réfugié à Nîmes. On me dit que la fédération protestante dont il était président était à Nîmes, ont mis sur pied la CIMADE, donc pour s'occuper des... Vous connaissez bien la CIMADE, qui s'occupait de tous les réfugiés, des gens qui étaient dans les camps, etc. Et Madeleine Barrault, avec cette Suzanne de Dietrich, étaient les premières responsables. Combien de fois, comme Madeleine Barrault était plus... disons, capable de faire des trajets. Combien de fois m'a-t-il dit, on m'a confié 2 ou 3 enfants, donc j'étais censée être la grand-mère, et j'ai pris le train pour aller les emmener en Suisse. Or, c'était forcément des Juifs qu'on récupérait, et cette dame était leur grand-mère ou leur tante, et elle les habillait, elle les connaissait bien, elle traversait, elle passait 3-4 jours en Suisse avec ses petits-enfants, paraît-il, et elle revenait. Donc, combien de fois cette femme que j'ai beaucoup admirée a fait ça? Elle allait dans les camps, à Gurs ou ailleurs, elle allait dans les camps pour essayer surtout de sortir les enfants des camps de concentration. Parce qu'elle disait, aux parents, il faut que vous acceptiez de laisser sortir vos enfants, on pourra peut-être les libérer un jour et en faire quelqu'un. Enfin voilà, donc Suzanne de Dietrich était une grande bibliste. Je ne dirais pas forcément féministe comme Marie Dantière, mais une femme profonde. Quand vous la regardiez, quand vous l'écoutiez, vous étiez vous-même inspirée. Donc Suzanne de Dietrich, qui est morte en 81, donc moi je suis arrivée à Paris en 71, donc j'ai eu 10 ans pour la rencontrer. Elle donnait plus beaucoup des conférences dans certaines salles, au boulevard Arago ou bien au 47 rue Clichy, mais pas souvent. On allait plutôt chez elle où elle animait des sessions bibliques. Voilà. Donc j'ai connu cette femme assez extraordinaire.
Donc c'est elle qui a créé ce qu'on appelle la CIMADE, voilà, maintenant, CIMADE, ouais. Qui s'appelait peut-être pas la CIMADE au tout début, ou
Service intermouvement, etc. Donc le but, c'était que tous les mouvements protestants, il y avait les étudiants, il y avait les éclaireurs, que tous les mouvements se regroupent pour lutter contre le nazisme et l'antisémitisme. Alors on avait créé un comité intermouvement, etc. C'est ce qu'a appelé. Et puis elle était aussi à l'origine de la FUAS, Fédération Universelle des Associations Chrétiennes d'Étudiants. Il a toujours existé dans les facultés des associations chrétiennes d'étudiants. Maintenant, je pense un peu moins. Et alors, ces étudiants chrétiens qui se rencontraient et tout, créaient des choses nationales, et c'était au niveau international, il y a une énorme association. Il y a aussi le Conseil œcuménique des Églises, tout le monde connaît, qui est né en 39 également, regroupement de toutes les églises orthodoxes protestantes et hélas pas catholiques à l'époque. Et voilà, donc ces femmes avaient des idées de regroupement, surtout parmi des jeunes qui pourraient être demain les dirigeants de nos églises.
Donc nous avons fait deux petits essais, ouais. sur deux des femmes 2 sur 15. Ouais. Alors, vous avez encore de quoi faire, hein, parce que...
Et puis, à côté des 15, je prends par exemple, justement, quand vous voyez un panneau, et à côté, donc c'est ce qu'on a appelé le cloud, le nuage. Donc là, je prends un panneau, et à côté, vous avez toutes sortes de femmes qui sont mises et qui expliquent des choses. Bon, donc, vous connaissez Franche Quéré, peut-être, non?
Oui, bien sûr.
Une femme extraordinaire, qui était donc, elle aussi, une théologienne tout à fait remarquable. Et je peux le dire parce que je l'ai connue aussi un peu. Elle est morte relativement jeune d'une crise d'asthme. Et là, c'était une personne qui avait de l'asthme.
Oui, elle a écrit plusieurs livres.
Voilà, elle a écrit énormément de livres et tout. Et moi, j'ai eu affaire avec elle parce que je raconte cette anecdote. En 81, qui est le président Mitterrand, il crée très vite, ce qui était très bien, le Conseil consultatif national d'éthique. Vous vous souvenez, CCN, en disant on ne peut pas continuer à faire des recherches, à faire des trucs sans avoir une réflexion éthique. Je me souviens très bien, c'était très bien. Et dans ce conseil, ils étaient 36, je crois. Il y avait des savants, des médecins, il y avait des politiques et il y avait des religieux, entre guillemets. Ils voulaient qu'il y ait des gens de tous les libres penseurs, catholiques, juifs, chrétiens, etc. Et c'était en 81 et je me souviens que M. Mitterrand connaissait Franche Quéré de par sa réflexion sur l'éthique. Elle a beaucoup réfléchi, etc. Et il l'avait sollicité. Nous, on était très fiers parce que c'était une femme. Et ensuite, il avait fait téléphoner au bureau du président de la fédération, dont j'étais la secrétaire, c'était le pasteur Jacques Maury. Et il avait dit, monsieur le pasteur, enfin la secrétaire de monsieur Mitterrand, est-ce que vous acceptez que nous, le gouvernement, nous nommions cette femme protestante comme représentative des protestants de France? Moi, j'étais très fière parce que c'était une femme. Le pasteur Maury a dit bien entendu, mais peut-être qu'inconsciemment, ils auraient préféré d'y voir un grand théologien ou un pasteur connu, vous voyez. Mais donc, la première personnalité protestante au sein de ce conseil du gouvernement, c'était une femme protestante. Après, il y a eu des hommes, etc. Il y a eu Olivier Abel, d'autres comme ça. Donc, il y a toujours un représentant protestant dans cet organisme de l'État. Voilà. Et c'était Franche Quéré la première.
Eh bien, nous avons beaucoup appris aujourd'hui grâce à vous, Jacqueline Dhomme, et grâce à cette exposition que je vous recommande, que nous vous recommandons, Femmes d'espérance, Femmes d'exception. Je vous rappelle que, donc, mercredi 12 mars, il y a un petit verre de l'amitié et une présentation par Jacqueline Dhomme. Donc, mercredi 12 mars,
18h.
Voilà. Et puis, surtout... cette exposition jusqu'au 17 mars, où vous aurez l'occasion d'en apprendre beaucoup sur ces femmes, 15 portraits du 16e au 20e siècle.
Une petite remarque pour les paroisses qui voudraient l'obtenir, nous pouvons encore, elle est en siège je crois à Bourges chez une amie protestante, pasteur à la retraite, nous pouvons encore l'envoyer. Donc il y a des systèmes, c'est sous un tuyau, on envoie les 32 images, donc on peut soit la louer, soit l'acheter. Il y a encore possibilité pour les paroisses lointaines qui ont entendu mais qui n'ont pas vu.
Voilà. Ah, très bien, très bien. Merci Jacqueline de nous avoir rappelé cela. Et puis, eh bien voilà, il ne reste plus qu'à vous remercier grandement et donc à donner l'envie encore aux auditrices et aux auditeurs d'aller à cette exposition. Merci beaucoup, Jacqueline.
Merci à vous.
Au revoir.